Bonjour et bienvenue dans le grand face-à-face de France Inter. Merci de nous être fidèles tous les samedis au sommaire jusqu'à 13h. Dans un instant, le duel Natacha Polony-Gilles Finkelstein. Et puis le débat du samedi, l'humanité au risque de la technologie, la grande révolution de l'IA, de l'intelligence artificielle. Cette grande révolution doit-elle nous effrayer ou d'abord susciter l'espoir? Question d'actualité au moment où les plus grandes entreprises de la tech mondiale et notamment les GAFA investissent dans ce secteur des sommes colossales. Derrière les progrès techniques se profilent, vous le verrez, des enjeux vertigineux d'ordre éthique ou politique. Invité du grand face-à-face cette semaine, l'un des grands noms de l'intelligence artificielle. Il dirige la recherche fondamentale chez Facebook, il est professeur à l'université de New York, lauréat 2019 du prix Turing, le Nobel de l'informatique, et il publie « Quand la machine apprend » chez Odile Jacob. Rendez-vous avec Yann Lequin dans une vingtaine de minutes.
France Inter, le grand face-à-face, Ali Badou.
Le grand face-à-face avec la directrice de Marianne, Natacha Polony, et le directeur de la Fondation Jean Jaurès, Gilles Finkelstein. Bonjour les amis.
Bonjour.
Heureux de vous retrouver et on va évidemment revenir sur l'actualité de la semaine et bien sûr cette attaque contre la mosquée de Bayonne. Écoutez Manuel Valls, il était au micro de France Inter ce mardi.
Une des plus belles démonstrations que nous avons à faire pour nous-mêmes, à l'Europe et au monde, c'est de montrer précisément que dans ce pays, l'islam, les musulmans sont parfaitement compatibles avec les valeurs de la République. Or, s'il y a un doute au sein des Français, c'est qu'il y a un problème et qu'il y a un danger de concorde nationale. Donc, il faut aider, protéger d'abord, aider les Français musulmans à combattre au sein même de l'islam ceux qui portent l'idéologie de haine.
C'était donc Manuel Valls. Natacha, on est en pleine confusion. C'est très compliqué de s'y retrouver dans cette période. Manuel Valls prononçait des propos assez clairs. Malgré tout, la question de cette attaque contre la mosquée de Bayonne survient à un moment où se mélangent toutes les questions, tous les débats, toutes les polémiques autour de l'islam. Comment y voir clair ?
Alors, je pense déjà que la seule façon d'y voir clair est d'essayer d'éviter les pensées réflexes, les caricatures, et de poser les choses, de poser quelques points fondamentaux. Premier point, il s'agit bien de la première, du premier attentat en France dirigé contre des musulmans, contre une mosquée, et qui blesse par balle des musulmans parce que musulmans. Et en cela, c'est un précédent gravissime, même si là, on peut considérer que cet homme était visiblement indéséquilibré, c'est le terme qu'on utilise désormais, et qu'il était dans une sorte de dérive assez lamentable. Mais pour autant, voilà, c'est un précédent majeur et il ne faut pas le minimiser. Deuxième point, tout aussi important. Il est absolument effarant de voir le déchaînement de haine, de rancœur, notamment sur les réseaux sociaux qui ont le triste avantage de permettre aux gens de s'exprimer sous couvert d'anonymat et donc de dire ce qu'ils ont au fond d'eux-mêmes.
Ouais.
Un déferlement de haine qui tend à fracturer le pays et à construire deux camps. Or, justement, c'est ce qu'il y a de plus dangereux. L'idée qu'il y aurait deux camps et qu'il faudrait choisir le sien. Et je suis très frappée de l'hémiplégie de beaucoup de gens, c'est-à-dire d'un côté ceux qui, d'habitude, quand il y a un attentat islamiste, disent « attention, pas d'amalgame » et tout cela n'a rien à voir avec l'islam et qui, là, pratiquent les amalgames et l'accusation généralisée et font comme si le fait même de s'interroger sur la visibilité de l'islam dans l'espace public à travers le voile était déjà la préparation d'un attentat. Et en face, ceux qui d'habitude justement s'insurgent, qu'on ne nomme pas, qu'on ne dise pas qu'un terroriste est un terroriste et qui là tout à coup ont l'air de dire « Ah mais non mais c'est rien, c'est un déséquilibré !» Mais non mais ça n'a rien à voir avec des discours comme ceux par exemple que peut tenir un Éric Zemmour quand il appelle clairement dans un discours à la guerre civile. Voilà, non non ça n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'on a une hypocrisie absolue de la part de gens qui se radicalisent et je pense que la nécessité aujourd'hui est d'essayer de tenir un discours de juste mesure. Un débat sur le voile n'est pas illégitime du moment qu'il ne vire pas à l'obsession et à l'hystérie. En revanche, il est absolument nécessaire de considérer que les musulmans en France ont toute leur place, et il faut le dire, c'est pas seulement le considérer, c'est le dire, et le dire très fort, et que l'islam n'est pas incompatible avec la République du moment qu'on sait encore ce qu'est la République.
Gilles Finkelstein.
Oui, je crois qu'il y a pas, il ne doit pas y avoir de confusion, que les choses en réalité sont assez simples. Natacha Polony vient de le dire, d'abord, accepter de nommer les choses. Et donc, quand il y a une agression contre des biens ou des personnes dans un contexte politique comme celui-là, ça s'appelle un attentat, et je crois qu'il faut le dire, et que ça a été un tort du ministre de l'Intérieur de ne pas le dire aussi explicitement. Deuxièmement, il faut refuser l'hémiplégie. Natacha Polony l'a dit, elle a raison, c'est-à-dire qu'il faut avoir exactement la même attitude lorsqu'un attentat vient de l'extrême droite ou de l'ultra-gauche ou des terroristes islamistes. Il faut refuser également la précipitation, et donc il faut garder une prudence sur l'état psychologique en l'espèce de l'auteur. D'ailleurs, on le voit également sur l'attentat contre la préfecture de police de Paris, où les choses ne sont pas si simples. Et surtout, et en tout état de cause, je crois qu'il faut s'alarmer, parce que la situation est alarmante. S'alarmer d'un regain de violence de l'ultra-droite, ce n'est pas le premier attentat, c'est le premier attentat de fait qui a lieu, mais il y a eu plusieurs attentats qui ont été déjoués, s'alarmer d'un terreau intellectuel qui non seulement est nauséabond, mais qui devient de plus en plus dangereux. Lorsqu'on avait parlé il y a quelques semaines ici du discours d'Éric Zemmour, dont on avait essayé de souligner les points qui posaient problème, lorsque l'on parle de la nécessité du réveil des consciences, de la menace civilisationnelle, du grand remplacement, lorsque, cette semaine encore, Yves Tréhard, sur LCI, dit « Je déteste la religion musulmane », il y a un terreau qui est extrêmement inquiétant. Et enfin, et c'est rarement souligné, il faut s'alarmer de la radicalisation de plus en plus importante des sympathisants du Rassemblement National. Lorsque vous regardez dans toutes les enquêtes d'opinion ce qu'ils pensent, dans l'enquête qui est encore sortie cette semaine, dimanche dernier, dans le journal du dimanche, qui a fait grand bruit. Lorsqu'on regarde ce que pensent non pas les Français en général, mais les sympathisants du Rassemblement National, il y a une radicalisation de plus en plus importante, une obsession réelle de l'islam. 80% des sympathisants du Rassemblement National qui disent « la première priorité, c'est la lutte contre l'islamisme ». Un sens de la laïcité qui est dévoyé et qui, à la différence des sympathisants de tous les autres partis, est lu d'abord à l'aune de faire reculer l'influence des religions, en l'occurrence d'une religion, et cette idée, massivement 85% des sympathisants du Rassemblement National qui disent l'islam n'est pas compatible avec les valeurs de la République. Donc je crois que c'est assez simple, il faut s'alarmer de tout ça, et il faut sortir d'une forme de silence coupable face à des dérives. J'ajoute juste une dernière phrase, je ne sais pas si vous avez vu le film Alice et le maire avec Fabrice Lucchini. Dans Alice et le maire, Alice, donc, qui est la collaboratrice du maire de Lyon, jouée par Fabrice Lucchini, lui écrit une note dans laquelle elle souligne, je la cite, « la perte du crédit moral qui affecte les formes civilisées de la vie ». Eh bien, on en est exactement là, et je crois qu'il y a beaucoup, beaucoup de Français qui sont attachés à ces formes civilisées de la vie, et qu'il faut aujourd'hui les défendre avec force.
Natacha.
Je crois qu'en effet, la question de ce qu'on peut appeler les formes civilisées de la vie et la question de la rationalité et de la possibilité pour des citoyens de se retrouver autour d'une pensée rationnelle me semble aujourd'hui absolument essentielle.
Vous y croyez?
À ceci près.
À la possibilité.
Non, je pense que nous ne sommes pas là pour croire ou ne pas croire, nous sommes là pour rendre possible. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'y croire en se disant « Oh, peut-être que ça peut exister », il s'agit de se demander comment on prépare ça, quelles sont les conditions politiques pour faire en sorte que cela puisse exister. Et je crois simplement que la phrase d'Yves Tréhard pose problème en effet dans le contexte actuel. En revanche, elle distingue, et c'est toute la question et tout le problème, elle distingue la religion, le droit de critiquer une religion, et les croyants eux-mêmes qui doivent être respectés systématiquement. Le problème, c'est qu'évidemment, prononcer cela en ce moment n'est pas anodin, d'autant plus qu'on sait à quel point cette distinction, hélas, n'est plus comprise. Mais dans un pays qui est celui de Voltaire, nous devons absolument préserver la possibilité de critiquer les religions. Il n'y a pas de délit de blasphème, et ça aussi, ça doit pouvoir être rappelé.
Oui, on peut évidemment critiquer d'un mot. On peut évidemment critiquer les religions. Le problème, c'est que de je déteste la religion musulmane à je déteste les musulmans, il y a un pas que beaucoup d'esprits
c'est ce que je viens de vous dire. Et
peuvent franchir.
France Inter, le grand face à face. Le duel.
L'hôpital public, c'est un navire en perdition dans la tempête. Donc ce qu'il nous faut, c'est des remorqueurs de haute mer. Si vous envoyez deux Zodiacs, il ne va rien se passer et il va aller se crasher le bateau.
Il n'y a plus de dialogue social. Il y a du mépris envers tous les cheminots. On leur dit clairement, eh ben, démerdez-vous.
Avec les simulations que nous avons faites, nous voyons que les enseignants perdraient 10 à 30% du niveau de pension. C'est bien sûr énorme.
On vient d'entendre un manifestant qui faisait grève à l'hôpital, un cheminot à Châtillon, une enseignante. Est-ce que vous voyez dans l'accumulation, la juxtaposition de ces mouvements de colère, Gilles Finkelstein, quelque chose qui pourrait ressembler à une agrégation? Est-ce que ces mouvements peuvent se rejoindre? Est-ce qu'on peut parler, je crois que c'est votre expression d'ailleurs, de marmite sociale?
Il y a une marmite identitaire, celle dont on vient de parler, et elle bouillonne. Mais il y a une marmite sociale qui frémit. La première le fait bruyamment, la deuxième le fait peut-être trop à bas bruit, mais elle est là et je pense qu'elle monte en température. Est-ce qu'il peut y avoir une convergence des mouvements? Je n'en sais rien. En revanche, il y a des convergences entre ces différents mouvements. Il y a une même demande de reconnaissance. Le mot mépris qui a été là avancé par le cheminot, je crois, correspond assez bien à une demande de reconnaissance à la fois matérielle et symbolique de ces différentes professions. Il y a le recours à des formes inédites de mouvement. La SNCF, le retrait, droit de retrait massif, grève sans préavis, c'est nouveau. À l'hôpital, le refus de codage des actes, c'est nouveau. On l'avait vu il y a quelques mois dans l'enseignement avec le refus de correction des copies.
Et ça échappe souvent aux syndicats d'ailleurs.
Ça échappe souvent aux syndicats et c'est là aussi une convergence. Et enfin, peut-être la dernière convergence, c'est que ces différentes professions sont d'une certaine manière les premières lignes de la République, celles qui sont confrontées aux difficultés de nos concitoyens. Donc, tout ça traduit un malaise qui est un malaise profond, un malaise qui ne date pas de l'élection d'Emmanuel Macron et qui ne se résout pas d'un coup de baguette magique.
Natacha ?
Je crois qu'il y a en ce moment quelque chose qui est en train de se passer partout dans le monde sous différentes formes. Il y a partout dans le monde, au Chili, en Irak, au Liban, un réveil des classes moyennes, c'est-à-dire la prise de conscience tout à coup que ces classes moyennes, qui d'ailleurs dans certains pays avaient émergé depuis quelques décennies, sont menacées de déclassement par un système économique mondial qui les lamine. Or, ce n'est pas sans lien avec cette fameuse marmite sociale. Car ce que nous voyons aujourd'hui en France à travers ces mouvements sociaux, c'est certes l'impression de n'être pas reconnu, le mépris, bien entendu, que ressentent tous ces gens qui exercent des métiers où finalement ils servent quoi? Vous dites, Gilles, ils sont en première ligne. Ce sont tout simplement les services publics, au sens large, c'est-à-dire tout ce qui permet à l'État de jouer son rôle de rééquilibrage et d'organisation de l'égalité entre les citoyens. Ça veut dire que nous avons détruit depuis plusieurs décennies, à coup de politique néolibérale, à coup d'austérité, de recul de l'État régalien, nous avons détruit ce qui faisait une spécificité française, l'existence, l'organisation du territoire par l'État. Ce sont les hôpitaux, c'est l'école, mais c'est aussi la SNCF, c'est aussi EDF, et nous détruisons tout cela, nous l'avons détricoté dans un mouvement qui est un mouvement mondial et qui va aujourd'hui se payer d'abord par des infrastructures qui sont dans un état absolument catastrophique et surtout l'impression de la part des citoyens qu'ils sont totalement abandonnés.
Gilles, est-ce que ça c'est différent de ce qui a fait naître le mouvement des Gilets jaunes? C'était il y a pile un an maintenant.
Les gilets jaunes sont nés sur à la fois une mesure ponctuelle qui était la hausse du prix des carburants et sur un fond qui était relativement proche à celui que vient de décrire Natacha. Oui, elle a raison de souligner que ça se passe dans de nombreux pays dans le monde et la marmite, et pour le coup, elle bouillonne et elle bouillonne fortement aussi dans d'autres pays. Le paradoxe est que la France est sans doute un des pays qui a le moins détruit ses services publics et qui a le moins réduit les outils de réduction des inégalités par la fiscalité. Et malgré tout, il y a ce malaise aussi qui est un malaise français. Emmanuel Macron, aujourd'hui, quand on regarde au plan national, il est plutôt en position de force d'un point de vue politique. En revanche, il est en position de faiblesse parce qu'il y a une fragilité sociale avec un jugement, je ne sais pas si vous avez vu, on est aujourd'hui à mi-mandat de l'élection d'Emmanuel Macron. 70% des Français disent « c'est injuste » et ce qui est tout à fait nouveau, 63% des Français disent « les promesses ne sont pas tenues ». C'est 20 points de plus qu'il y a un an. Donc, il y a cette fragilité sociale. Mais on a vu quelques professions qui sont dans la difficulté. Il y en a beaucoup d'autres et je crois que c'est une des difficultés, y compris que l'outil public, les fonctionnaires et les bâtiments publics eux-mêmes sont aujourd'hui en voie de paupérisation.
Natacha.
La spécificité de la France, c'est justement d'avoir choisi de s'organiser autour de ce rôle de l'État, de ce rôle majeur de l'État. Et c'est pour ça que, évidemment, nous avons préservé en grande partie cela. Nous l'avons préservé au prix du chômage de masse. Mais qu'est-ce qui a détruit cela ? L'idée n'est pas de dire il aurait fallu détricoter plus vite les services publics pour empêcher le chômage de masse. Nous avons choisi de maintenir une équité entre les citoyens, d'empêcher la grande pauvreté, et nous l'avons fait à peu près bien. Elle est en train de se creuser, l'écart est en train de se creuser, les inégalités sont en train de se creuser. Pourquoi ? Parce que nous avons subi ce mouvement général. Or, il y a une chose, l'Allemagne, au moment de Maastricht a fait écrire dans sa constitution la préservation absolue de sa spécificité qui était l'équilibre budgétaire. Pourquoi nous n'avons pas fait inscrire dans notre constitution la préservation de ce qui faisait notre spécificité, c'est-à-dire l'idée des services publics comme émanation de ce rôle essentiel de l'État? Au contraire, nous avons décidé d'abandonner cela, nous sommes en train de le payer.
Encore un mot, Gilles.
Oui, on est en train de le payer. Tout ça pose au fond la question de notre système économique, de notre modèle de développement au moment précis, et c'est ça le défi devant lequel nous sommes, au moment précis où nous savons que nous devons le changer pour des raisons notamment liées au changement climatique. Et donc je crois que le grand défi qui nous est collectivement posé, c'est comment on fait à la fois du social et de l'environnement, comment on fait converger les deux.
À suivre dans le Grand Face à Face, le débat avec Yann Lequin.
France Inter, le Grand Face à Face, le débat.
L'humanité au risque de la technologie. A-t-on raison d'avoir peur de la révolution de l'intelligence artificielle ou faut-il au contraire y trouver des raisons d'espérer? La question est aussi vieille que la science-fiction. Elle est au cœur d'un nombre incalculable de films, de BD, de romans. Et c'est maintenant une question d'actualité et un enjeu qui fait débat bien au-delà de la Silicon Valley. D'un côté, les catastrophistes, ceux qui craignent de voir les hommes un jour dominés par les machines. Ils nous alertent sur les dangers déjà très réels posés par le développement des technologies. Dangers sociaux, éthiques, politiques. Et de l'autre, il y a ceux pour qui les progrès à venir sont immenses. Ils concerneraient tous les domaines de nos vies. Ils sont vertigineux. Notre invité est de cela. C'est un Français qui est devenu en quelques années l'un des inventeurs qui révolutionne le domaine de l'intelligence artificielle. Il dirige la recherche fondamentale chez Facebook. Il enseigne à l'université de New York. Il est lauréat 2019 du prix Turing, le Nobel de l'informatique. Et il publie chez Odile Jacob Quand la machine apprend. Bonjour Yann Lequin.
Bonjour.
Et bienvenue. Merci d'avoir accepté le jeu du débat, le jeu aussi de la pédagogie. Quand la machine apprend, c'est un livre passionnant. Sous-titre, la révolution des neurones artificiels et de l'apprentissage profond. Il y a des passages techniques, il y a aussi des questions extrêmement contemporaines et qui sont dans l'actualité, qui sont justement des défis posés notamment à Facebook. On va en parler dans un instant. D'un mot, puisque vous êtes l'un de ceux qui inventent notre avenir, expliquez-nous ou rappelez-nous très simplement ce qu'est l'intelligence artificielle.
L'intelligence artificielle, c'est donner aux machines la capacité de percevoir, de raisonner et d'agir. Et en somme, de leur permettre d'accomplir des tâches que d'habitude on réserve aux animaux et aux humains.
Alors justement, c'est Natasha là Polony. On entre immédiatement dans le vif du sujet. Vous dites de percevoir. Et il me semble que ce qui caractérise un être humain, c'est qu'il apprend par les cinq sens. C'est que dès qu'il est dans le ventre de sa mère, puis ensuite dès qu'il est un bébé, ce sont les informations qu'il reçoit par ses sens qui lui permettent de former son cerveau. Donc quand vous nous dites que l'intelligence, en fait que le but aujourd'hui c'est de faire en sorte que les machines apprennent de la même façon, il faudrait expliquer de quelle perception on parle, puisqu'en fait, on travaille sur le visuel. Vous citez souvent la question de la capacité d'une machine à reconnaître un chat par rapport au fait qu'un enfant, lui, a besoin juste de quelques dessins pour immédiatement identifier un chat. Est-ce qu'il ne manque pas aux machines les autres sens, tout simplement ?
Yann Lequin.
Alors, pas forcément. D'abord, tout le monde n'a pas les cinq sens.
C'est vrai,
il y a des non-voyants, malentendants.
Ils compensent par les autres, il y en a cinq, ça fait
absolument.
Beaucoup.
Absolument, donc le fait d'avoir plusieurs sens en fait, aide certainement à l'apprentissage, ça donne plus d'informations qu'on peut corréler l'une à l'autre. Il y a des recherches en fait, sur ce qu'on appelle l'apprentissage multimodal, donc, qui combine le son et la vision par exemple. Le toucher, pas encore trop parce qu'on ne sait pas très bien faire ça avec les robots, mais ça va venir, on y travaille. En fait, ce qu'on sait faire beaucoup aujourd'hui avec les techniques d'intelligence artificielle, c'est-à-dire de ce qu'on appelle l'apprentissage profond, l'apprentissage automatique.
Le deep learning, pour employer le mot qu'on emploie dans la Silicon Valley.
Exactement. On peut relativement facilement permettre aux machines d'apprendre à percevoir, donc reconnaître des images, traduire la parole en texte, ce genre de choses. Mais on ne sait pas encore très bien faire la partie raisonnement et la partie action un petit peu moins. On y travaille beaucoup aussi, mais c'est beaucoup moins efficace que les humains. Par contre, ce qui est important de savoir, c'est qu'effectivement, pour entraîner une machine à pouvoir reconnaître des chiens, des chats, des tables, des chaises, il faut lui montrer des milliers d'exemples d'images. Et à chaque fois en lui disant « c'est un chat, c'est un chien, une table, une chaise », alors qu'effectivement un enfant apprend ce genre de concept avec quelques exemples. Donc on n'arrive pas à l'efficacité d'apprentissage qu'on observe chez les animaux et les humains.
D'où le titre de ce livre « Quand la machine apprend ». Parce que lorsque vous parlez d'apprentissage profond, de ce « deep learning » en bon français, c'est cette révolution qui est en cours. Apprendre à la machine à apprendre par elle-même et non plus à exercer des tâches automatiques, même si elles sont extrêmement complexes et pour lesquelles on l'a programmé. Du coup, ce deep learning, ça permettrait aux machines d'être autonomes. Il faut juste nous expliquer à quel point cette révolution est importante. Est-ce qu'il y a des exemples dans le passé, ça peut vous paraître étrange comme question, auxquels on pourrait comparer la révolution que nous sommes en train de vivre avec l'intelligence artificielle?
Alors ça dépend un petit peu de l'aspect
qu'on considère. Est-ce que c'est la roue? Est-ce que c'est la découverte du feu?
Les économistes nous disent que c'est peut-être équivalent à l'invention du moteur à vapeur, de l'électricité, donc ils vont révolutionner un petit peu la manière dont on fait un peu tout dans la société, dans l'économie. Ils voient ça, ils qualifient ça de technologie d'usage général, General Purpose Technology, GPT en anglais par son acronyme.
Oui.
Et donc il va progressivement se disséminer dans toute l'économie et changer un petit peu la manière dont on fait les choses, un petit peu la manière dont l'Internet, il y a une vingtaine d'années, a fait la même chose et la technologie de l'informatique, en fait, à peu près au même moment, a aussi transformé la société.
Gilles.
Oui, je vais vous poser une question sur le monde de l'intelligence artificielle, ce que vous retracez dans ce livre, à la fois votre parcours et qui est intimement lié au développement de l'intelligence artificielle. Donc, votre livre permet de bien comprendre les différentes étapes du développement de l'intelligence artificielle.
Mais le parcours, c'est un cas d'école, je le dis juste d'un mot, mais c'est vrai que ça part de l'histoire d'un gamin français qui bédouillait ado sur son ordinateur dans une banlieue pavillonnaire pas si loin de Paris et pas si loin de là où a grandi Natacha, sans trahir de secret, et qui est aujourd'hui à la tête de la recherche fondamentale et l'un des boss mondiaux de l'intelligence artificielle, notamment chez Facebook. Gilles.
Oui, donc on voit les différentes étapes scientifiques, mais on voit aussi les différentes étapes sociétales. C'est que en fonction des modes, en fonction des financements, en fonction de la capacité de réception de la société, il y a des étés et des hivers de l'intelligence artificielle. Vous dites que ce qu'a été votre article phare, écrit en 1998 sur les réseaux convolutifs, pendant 10 ans, il passe à peu près inaperçu, et puis il réémerge 10 ans, 15 ans et 20 ans après. C'est en 2019, il y a plus de 20 000 citations. Donc on voit bien le jeu entre l'un et l'autre. Il y a une chose qui m'a surpris sur ce monde de l'intelligence artificielle, c'est que vous le décrivez comme un monde extrêmement coopératif. Ouvert, vous publiez, beaucoup de choses sont en open source. Est-ce que c'est la réalité ? Est-ce que c'est la réalité compte tenu de ce que sont aussi les enjeux économiques ?
Oui, c'est la réalité, effectivement. Et en fait, c'est un petit peu spécial, spécifique, je dirais, à la recherche en intelligence artificielle. C'est quelque chose pour lequel j'ai beaucoup milité aussi, c'est de la pratique de la recherche ouverte et de la communication rapide. Traditionnellement, dans la science, le progrès peut être relativement lent à cause du fait que on met sur pied une expérience. Par exemple, dans la biologie, ça peut prendre 2 ans. On fait l'expérience, on écrit un article, on le soumet à un journal, le journal le refuse, on fait une révision, on le soumet à un autre journal, etc. Le délai de publication peut être 1 an, 1 an et demi, 2 ans. Et donc, en fait, le résultat n'est connu que 4 ou 5 ans après que l'idée est émergée.
Et puis, si on travaille pour une entreprise privée, en l'occurrence, ouais, on ne divulgue pas ses secrets de fabrication.
Au contraire, c'est justement là que...
C'est là que les choses ont changé.
Les choses ont complètement changé. C'est-à-dire que toute la recherche qu'on pratique à Facebook et en grande partie aussi dans d'autres compagnies comme Microsoft, Google, est ouverte, elle est publiée. En ce qui nous concerne à Facebook, on publie aussi nos programmes, ce qui permet en fait d'essaimer la communauté de la recherche, de travailler sur des problèmes intéressants et en fait de leur faciliter le travail. La raison pour ça étant que les choses qu'on voudrait construire avec l'intelligence artificielle n'existent pas encore. Et donc il faut que le problème de construire des machines intelligentes en fait est un des défis technologiques majeurs. Aucune société aussi large qu'elle soit n'a le monopole des bonnes idées, et donc il faut aider le reste de la communauté internationale à faire des progrès le plus rapide. Donc ce qu'on fait, c'est que on a une idée. On fait une expérience très rapide qu'on peut faire avec l'informatique aujourd'hui. On écrit un article qu'on publie immédiatement sur un site qui s'appelle archive.org, A-R-X-I-V. J'ai beaucoup de références à ces articles d'ailleurs dans le livre, qui sont accessibles à tout un chacun, n'importe qui, c'est gratuit, on peut se connecter.
À condition de pouvoir les comprendre et les lire.
Il faut pouvoir les comprendre, voilà.
Oui. Et vous parlez à des analphabètes, par exemple, aujourd'hui, qui n'y ont pas accès.
Ensuite, ces articles, peut-être, sont soumis au processus de peer review, comme on dit dans la science, donc qui demande à d'autres scientifiques de s'assurer de la véracité des résultats ou de la méthodologie. Mais ça fait que l'échange d'informations est extrêmement rapide et donc les progrès sont accélérés. Et c'est quelque chose pour lequel j'ai milité beaucoup.
Natacha.
Si j'ai bien compris la notion de circuit convolutif, il me semble que le basculement, et ce qui explique que votre article soit resté pendant 10 ou 15 ans sans vraiment être compris, hein, sans vraiment avoir de postérité, et qu'ensuite, ça au contraire, il révolutionne tout cela, il me semble que c'est parce que, justement, la question était de savoir dans quel sens on essayait de développer la machine et si on copiait ou si on essayait de comprendre le fonctionnement d'un être humain pour que la machine puisse apprendre de la même manière. En fait, j'ai envie de vous demander quelle est votre vision d'un être humain, parce que dans votre livre, vous nous racontez votre vision, finalement, des machines. Quand on travaille comme cela, quand on cherche à faire avancer les machines, il reste quoi de la vision qu'on a d'un être humain et de la spécificité d'un être humain ?
Yann Lequin.
Alors en fait, la quête scientifique derrière tout ça, la motivation, c'est comprendre l'intelligence humaine, comprendre l'intelligence d'une manière générale, qu'elle soit animale ou humaine, ou artificielle, enfin, ou l'intelligence des machines. Et en tant que... c'est une grande question scientifique, en fait, une des trois grandes questions scientifiques du monde aujourd'hui: comment marche l'univers, qu'est-ce que la vie, comment marche le cerveau. C'est les trois grandes questions, si vous voulez, vous pouvez accorder pratiquement toute la science à une de ces trois questions, la science fondamentale. Et donc, en tant que personne ayant la fibre de l'ingénieur, je tiens de ça de mon père qui était ingénieur, je pense que pour vraiment comprendre le fonctionnement d'un système, il faut pouvoir le construire soi-même, c'est-à-dire ne pas se faire d'illusions sur des idées théoriques qu'on pourrait avoir qui en fait ne peuvent pas marcher en pratique. Si on veut vraiment prouver que nos idées fonctionnent, il faut les réaliser et montrer qu'un
Mais pour répondre à Natacha, si on vous comprend bien, ça veut dire que vous considérez l'homme comme une machine.
L'homme
vous
est une machine, ça
cartésien,
n'a fait aucun doute. Oui, je
suis très... Il y a quelque chose qui relèverait de l'âme, par exemple, de l'ordre de l'âme ou de la spiritualité.
Disons, l'âme, c'est comme le logiciel dans un ordinateur. C'est une idée, c'est une vue de l'esprit, c'est comme le fonctionnement d'un logiciel, oui, mais ça n'a pas de réalité.
Sans aller jusqu'à la question du logiciel, quand on voit, par exemple, ce fantasme qui naît avec le transhumanisme, cette idée qu'on pourrait quasiment télécharger un cerveau sur un disque dur, c'est justement oublier le corps et oublier que l'être humain, oui, n'est pas uniquement fait d'un flux électrique, ou en tout cas, c'est tellement complexe que ça en devient une différence de nature et pas une différence de degré, non ?
Prolonger la question de Natacha, vous dites, c'est parfois d'ailleurs assez surprenant que vous travaillez par intuition, vous commencez par l'intuition et puis après viennent les mathématiques. À quel moment y a-t-il de l'interdisciplinarité qui permet de répondre aussi d'une autre manière à la question d'Ali Badou, à quel moment d'autres experts, d'autres sciences viennent en interaction avec vous? Est-ce que ça se fait au niveau de l'entreprise elle-même ou est-ce que ça se fait à l'extérieur? Vous avez créé un réseau, vous l'avez dit, vous le développez dans le livre. Donc, est-ce qu'il y a de l'interdisciplinarité et quand et où?
Il y a beaucoup d'interdisciplinarité. Je vais y revenir dans une seconde. Je vais répondre d'abord à la question du transhumanisme. Je suis pas un adepte du transhumanisme du tout. La question de savoir si on peut télécharger son esprit dans un ordinateur, si on pourra le faire dans un futur lointain, parce que il y a pas du tout des technologies qui existent pour ça. Si on veut effectivement préserver un peu l'expérience humaine, il faudra aussi simuler le corps dans la machine, ou peut-être construire des robots qui soient suffisamment fidèles au corps humain. Et je pense que c'est du domaine de la science-fiction. On n'a pas du tout. Oh, on n'a aucune idée de comment faire ça.
On est très loin de Blade Runner.
Blade Runner, c'est une autre idée. C'est l'idée de construire des robots qui sont en fait des humains un peu modifiés, hein. Donc c'est une autre histoire. Alors pour revenir à la question de la multidisciplinarité, c'est en fait à la source de tous mes travaux. C'est-à-dire, je me suis beaucoup inspiré de travaux très classiques en neurosciences, un petit peu en sciences cognitives aussi, pour diriger un peu les recherches. Par exemple, j'ai toujours pensé que l'intelligence était inséparable de l'apprentissage. Ça, c'est pas le cas de tous les chercheurs en intelligence artificielle, particulièrement les précédentes générations, si vous voulez, avant les hivers qu'on a connus dans le passé, où il y a eu un courant de l'intelligence artificielle dans les années 70-80, un petit peu dans les années 90, qui disait, en fait, le raisonnement humain, c'est un raisonnement logique. Donc, si on peut faire que les machines obéissent à un raisonnement logique avec des règles d'inférence, il suffit d'écrire la liste de tous les faits qui sont vrais et un ensemble de règles de déduction, et on pourra faire des machines intelligentes. Ça s'est avéré extrêmement difficile, parce qu'on ne peut
pas
réduire... disons que ça conduit à certains outils qui se font maintenant partie de la boîte à outils standard de l'informatique, mais on n'arrive pas à des machines vraiment intelligentes avec ça, parce que on n'arrive pas en fait à réduire la connaissance humaine en une suite de règles et de faits. Par exemple, il est impossible de permettre à une machine de percevoir des images avec ce genre de méthode. Pour ça, il faut utiliser l'apprentissage. Donc très tôt, je me suis dit, il faut que l'apprentissage soit à la source de ça. J'ai commencé à m'intéresser à la question quand j'étais étudiant ingénieur, en fait, au début des années 80, fin des années 70 même. Et donc j'ai essayé de creuser la littérature. Je suis tombé sur des livres qui parlaient un peu d'apprentissage machine. J'ai essayé de creuser la littérature. Je me suis aperçu qu'il y a eu des gens qui ont travaillé là-dessus dans les années 50 et 60. Et ce domaine a complètement disparu à la fin des années 60 à la suite de la publication d'un livre en fait qui montrait les limitations des approches basées sur l'apprentissage. Et donc les gens avaient perdu à la fin des années 60 l'ambition de faire des machines intelligentes basées sur l'apprentissage. Donc il y a une période noire d'une quinzaine d'années et c'est reparti en fait au milieu des années 80 et c'est le moment où je commençais ma carrière, donc j'étais juste au bon moment. Puis j'ai inventé quelques techniques qui sont avérées très utiles, y compris les réseaux cognitifs qui sont inspirés par l'architecture du cortex visuel. Donc il y a beaucoup d'inspiration.
Pour le dire rapidement, quand vous travaillez sur l'intelligence artificielle, vous vous inspirez du fonctionnement du cerveau humain, de la connexion entre les neurones.
Pas
du cerveau humain?
Animal.
Animal?
En fait, il n'y a pas de différence. On a l'impression que les humains sont très différents des animaux. Oui. Bon, on n'est pas beaucoup plus intelligents que les orang-outans. Et finalement, ce qu'on recherche, c'est les principes de base de l'intelligence qui sont les mêmes chez tous les mammifères, chez certains oiseaux, etc. Donc, au niveau description, où sont les réseaux de neurones artificiels aujourd'hui, on n'est pas au niveau humain, on est plutôt au niveau Même pas d'un rat, en fait.
Même pas d'un rat. Ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on parle d'intelligence artificielle et de cette révolution en cours, on pense voiture autonome, on pense révolution, par exemple, dans le domaine de la médecine et notamment dans la possibilité de diagnostiquer plus rapidement, plus finement et de manière beaucoup plus accessible des tumeurs, par exemple. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre comme exemple pour que tout le monde comprenne ce dont on parle avant de passer aux questions que ça pose et aux débats que ça suscite?
Voilà. Dans ces exemples, ce qui est commun à ces exemples, c'est que les machines qui sont entraînées pour faire ces tâches ne sont entraînées que pour faire ces tâches très étroites. Donc, ont un type d'intelligence, si vous voulez, dans un domaine très très étroit. On les entraîne, par exemple, à reconnaître des espèces d'oiseaux à partir de photos, et ils peuvent reconnaître n'importe quel oiseau, probablement avec des performances surhumaines. On les entraîne à conduire des voitures. Pour l'instant, c'est pas encore des performances surhumaines, mais ça va venir.
Non.
À détecter des tumeurs dans les IRM ou dans les mammographies. C'est pareil, il y a des performances un petit peu surhumaines de ce côté-là. En fait, les meilleures performances sont obtenues en combinant l'humain et la machine. Donc, dans des domaines très étroits, certainement dans les jeux aussi, les machines peuvent être supérieures aux performances humaines. Par contre, ce que n'ont pas les machines, c'est un espèce de sens commun et d'intelligence un peu plus générale qu'on retrouve dans l'humanité, dans les primates, etc. Et même dans les rats et les chats ont plus de sens commun que les plus intelligents de nos machines.
Qu'est-ce qui vous permet aujourd'hui de dire que les inquiétudes de ceux qui craignent la catastrophe ou qui disent que la catastrophe a déjà commencé avec l'intelligence artificielle, qu'un jour les machines domineront les humains, que même les développements de l'intelligence artificielle pourraient à terme entraîner la fin de l'humanité, et ce sont de très grands scientifiques, Stephen Hawking le disait, le grand patron de Tesla, Elon Musk, le répète encore aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous permet de balayer ça et de dire non, c'est pas le scénario le plus probable, ni même le plus crédible?
Alors, il y a beaucoup de questions que les gens se posent, effectivement, qui sont liées, on est un peu conditionné par la science-fiction, les scénarios sont toujours plus intéressants quand il y a des catastrophes, donc on est un petit peu conditionné par ça. La plupart sont très irréalistes. Donc j'ai tout un chapitre, en fait, dans le livre qui essaie de répondre à toutes ces questions que les gens me posent souvent au cours de débats publics. Alors, tout d'abord, pour parler des dangers de domination de l'espèce humaine par l'intelligence artificielle, il ne fait aucun doute, d'une part, que à terme, ça va prendre du temps, plusieurs décennies, peut-être siècles, à terme, les machines seront plus intelligentes que les humains dans tous les domaines où les humains ont des capacités. Ça ne fait aucun doute. Ce ne sera pas l'intelligence humaine, hein, à cause de l'expérience du corps, etc., qui n'existera pas, ou en tout cas pas de la même façon. Mais les machines seront plus intelligentes que les humains dans tout un tas de domaines. Maintenant, ce n'est pas parce qu'on est intelligent qu'on veut dominer. La volonté de dominer, chez l'humanité d'ailleurs, n'est pas corrélée à l'intelligence du tout. C'est pas les plus intelligents d'entre nous qui veulent devenir les chefs, en général. On a beaucoup d'exemples de ce type sur la scène politique internationale.
Et celui qui habite aux États-Unis,
par exemple. C'est plus lié à la testostérone, et en fait c'est le résultat du fait que la volonté de dominance dans l'humanité et le fait que les humains, l'espèce humaine est une espèce sociale dans laquelle on a besoin d'influencer nos semblables pour survivre. Et puis il y a des relations de dominance, soumission hiérarchique dans la société humaine, comme il y en a chez les babouins, chez les chimpanzés, etc. Tout ça, c'est déterminé par l'évolution. Hein. Ce n'est pas lié à l'intelligence, c'est lié à la structure sociale que l'évolution nous a donnée, si vous voulez.
Oui, mais Natacha Polony. Justement, les êtres humains, contrairement aux babouins, enfin dans la mesure de mes connaissances, ont inventé un truc pour contrer ça s'appelle la démocratie. Et ils ont estimé que pour essayer de limiter l'impact éthique de l'appétit de domination de certains, il fallait essayer de faire en sorte qu'il y ait une délibération collective.
Absolument.
Or, tout ce qui est en train de se passer actuellement autour de l'intelligence artificielle échappe d'une certaine façon à cette délibération collective, même si vous expliquez que c'est contributif, etc. De fait, c'est le fait de grandes entreprises qui sont des monopoles privés et qui échappent totalement à tout questionnement collectif sur la légitimité de tel type d'avancée, sur la question de savoir à partir de quel moment il faut s'obliger à ne pas chercher dans cette direction-là, ce genre de choses.
Alors, Yann Lequin.
C'est des questions vraiment très, très importantes qui ne sont pas directement liées à l'intelligence artificielle, qui sont liées en fait aux nouvelles technologies de communication. Toute nouvelle technologie de communication a eu des effets positifs et quelquefois des effets pervers qui n'ont pas été anticipés. C'était vrai pour l'imprimerie. L'imprimerie, par exemple, a permis de diffuser au XVIIIe siècle les écrits du siècle des Lumières, mais aussi au XVe, au XVIe siècle, les écrits de Luther et Calvin qui ont causé deux siècles de persécution et de guerre de religion. Donc, personne ne
les
dira
que les protestants vont être révoltés par votre vision de l'histoire.
Je suis complètement athée et rationaliste, donc je ne prends pas parti en ce qui concerne la religion, mais personne ne dira que l'invention de l'imprimerie était une mauvaise chose globalement pour l'humanité, mais il y a des effets pervers même
pour
les
choses. C'est à ça qu'il faut comparer.
Alors non, c'est pas à ça qu'il faut comparer, mais ce que je veux dire, c'est que pareil pour l'invention de la radio a permis l'émergence du nazisme en Europe. On a fini par s'en protéger, etc. Donc toute technologie de communication a des effets positifs et des effets pervers. La question, c'est comment limiter les effets pervers tout en maximisant les effets positifs. L'avantage des réseaux sociaux, c'est qu'ils donnent une voix à tout le monde. Donc d'un point de vue fondamental, en fait, facilite la démocratie. Maintenant, la plateforme peut être exploitée.
Mais, et vous le savez parce que vous travaillez sur Facebook, il y a un espace d'expression pour 2 milliards de personnes à travers le monde.
7 même.
Il y a la question des 2 milliards 7. Ça ne cesse donc d'augmenter. Il y a la question des contenus haineux, par exemple, supprimés ou non par Facebook dès qu'ils sont mis en circulation. Là, pour le coup, l'intelligence artificielle intervient, puisqu'il faut les détecter immédiatement, sinon automatiquement. C'est une vraie responsabilité.
C'est une vraie responsabilité.
Donc, on n'est pas exactement dans le même cas que dans le cas de l'imprimeur ou de celui qui est un diffuseur radio, par exemple.
Vous savez, au début de l'imprimerie, on ne pouvait pas imprimer et distribuer un livre en France sans avoir un sceau du roi, en fait.
Il n'y avait pas d'algorithme.
Donc c'était extrêmement contrôlé aussi.
Telle ou telle, enfin, qui faisait remonter telle ou telle donnée par rapport aux autres.
Ok, ce qui veut vous dire, c'est que les gouvernements autoritaires, quand ils ont peur de leur population, suppriment Facebook. Ça vous indique le pouvoir de Facebook pour la démocratie. C'est que.
Il y a en effet quelque chose qui est de l'ordre de la nouvelle
par exemple,
agora.
A été permis par Facebook. Alors. Par ailleurs,
et Twitter, et c'est vrai, et par les
Twitter,
réseaux sociaux.
Etc. Par ailleurs, effectivement, ces plateformes sont quelquefois utilisées par les gouvernements pour attiser des tensions ethniques, comme on a vu au Myanmar, par exemple, ou à d'autres endroits. Et donc, il faut se protéger contre ces choses-là. Maintenant, pour la modération de contenu, alors encore une fois, je parle de choses qui ne sont pas mes spécialités, sur lesquelles je ne travaille pas.
Oui, bien sûr,
Facebook,
mais c'est intéressant parce que c'est des questions que vous êtes forcément posées, comme nous, comme citoyens,
comme citoyens
concernés et connaissant le sujet.
Exactement. Comment définir un contenu haineux? Mark Zuckerberg, l'année dernière, en fait, a fait un appel au gouvernement du monde en disant « dites-nous, parce que on ne se sent pas comme ayant la légitimité de prendre ce genre de décision, donc dites-nous ». Il y a eu un silence total, sauf du gouvernement Macron. Le gouvernement Macron était le seul, en fait, à répondre. Donc il y a eu une grande discussion entre Facebook et le gouvernement Macron sur comment définir le contenu haineux pour ériger des règles claires de quel contenu on garde, quel contenu on élimine, etc. Alors ça, c'est pour les contenus haineux. Il y a la propagande terroriste, il y a la pédophilie, le contenu pornographique, etc.
Oui.
Le harcèlement. Enfin bon, donc il y a tout un tas de contenus en fait qui doivent être supprimés plus ou moins automatiquement. C'est jamais parfait. La raison étant qu'on utilise ces systèmes qui sont entraînés et qui ont toujours un certain taux de faux positifs et de faux négatifs. Donc, ils vont laisser passer des choses qu'ils ne devraient pas laisser passer. Et par ailleurs, ils vont supprimer une fois de temps en temps des choses qui ne devraient pas être supprimées. Et les gens, évidemment, ne sont pas contents. Ce qu'il faut, c'est une procédure d'appel pour rétablir ces contenus. Donc, il y a eu, par exemple, des ratés.
Grand raté qu'on a tous en tête,
oui.
C'est la vidéo de la tuerie de Christchurch qui a été diffusée pendant 17 minutes sur Facebook. En l'occurrence, question sur laquelle vous revenez dans votre livre.
Oui.
C'est l'un des exemples de raté.
Voilà, donc ça, en fait, technologiquement, il est extrêmement compliqué de filtrer des vidéos qui sont faites en live comme ça, parce que il faut qu'il y ait des systèmes automatiques en fait qui reconnaissent le caractère violent, propagandiste, etc. De ces vidéos en temps réel, ce qui est extrêmement compliqué. Et pour le cas particulier d'une tuerie, d'un massacre. Heureusement, on n'a pas beaucoup de données d'entraînement pour entraîner nos systèmes de classification. Il n'y a pas beaucoup d'exemples de tueries par vidéo qu'on peut utiliser pour entraîner nos systèmes. Et comme j'ai dit précédemment, il faut des milliers d'exemples. Et on n'a pas des milliers d'exemples. Donc, et puis par ailleurs, il y a des vidéos qui sont très similaires, des jeux vidéo, des films d'Hollywood, dans lesquels il y a des massacres et qui sont tout à fait légitimes, quoi qu'on en pense.
Gilles Finkelstein.
Parmi les autres risques que l'on évoque régulièrement, c'est celui de créer une société de surveillance. Vous avez dit tout à l'heure que la machine sera plus intelligente dans tous les domaines que l'homme, mais vous dites aussi qu'aujourd'hui, on en est loin, qu'elle n'a pas de bon sens, qu'elle n'est incapable de raisonner et que ses capacités intellectuelles sont plus proches de la souris que de l'être humain et que donc, je vous cite, s'il y a une catastrophe, elle ne pourra être imputée qu'à l'homme. Est-ce qu'on ne donne pas, avec ces outils, la possibilité justement à l'homme d'exercer ses desseins les plus noirs? Vous parlez des enceintes connectées en disant que elles sont en écoute en continu, qu'elles ont donc la capacité de surveiller toutes les conversations. Vous évoquez l'usage, notamment par les Chinois, de la reconnaissance faciale. Donc là, on est vraiment sur l'intelligence artificielle et ce sur quoi vous avez travaillé et vous avez contribué à faire des progrès considérables. Est-ce que là, on ne donne pas, dans une période historique qui est particulièrement compliquée, à l'homme la capacité d'aller très loin dans la société de surveillance?
Yann Lequin.
Alors, ce qui nous protège des mauvais effets de la technologie, c'est pas seulement l'intelligence artificielle, ce sont les forces de nos institutions démocratiques. En fait, les utilisations un peu de dérive sécuritaire de l'IA pour l'instant sont dans des pays plutôt autoritaires, dans lesquels justement il n'y a pas ces processus démocratiques. Si l'IA ou toute autre technologie en fait envahit notre vie, les gens ne vont pas l'accepter, vont mettre en place des élus qui vont protéger leur vie privée. Donc, on l'a vu avec, par exemple, en Europe, RGPD. Facebook, par exemple, a adopté les règles du RGPD mondialement, même si la loi ne s'applique qu'en Europe, disant que c'était finalement une bonne idée. Donc, en fait, il faut défendre les institutions démocratiques. La démocratie libérale a de gros avantages de ce côté-là. Libérale au sens américain du terme, pas au sens économique du terme. Et c'est dans tous les cas au cours de l'histoire, c'est le processus démocratique qui nous a protégés des dérives.
Oui, mais Natacha. Le processus démocratique n'est-il pas en partie entravé par ce qu'on évoquait tout à l'heure, la question du monopole? Y a-t-il véritablement libéralisme quand il y a un monopole et un monopole privé? C'est-à-dire que dans la mesure où Facebook ou Google ont pour but tout de même de gagner de l'argent, ce qui est le principe pour une entreprise, est-ce que ça n'aboutit pas à un glissement dans, par exemple, le cas de Cambridge Analytica ou dans d'autres cas de ce genre-là? Est-ce que ce n'est pas le fait que une entreprise telle que Facebook soit guidée par le besoin d'utiliser les données pour faire de l'argent qui aboutit à une dérive?
Yann Lequin.
Alors, je vais vous surprendre, je vais vous dire que le but aussi bien de Google que de Facebook n'est pas de faire de l'argent.
Sérieusement,
nous croyons à la philanthropie, mais en fait, il y a tout de même des limites.
Le but de Google, d'ailleurs, c'est leur motto, c'est d'organiser l'information du monde. Le but de Facebook, c'est de connecter les gens. Maintenant, évidemment, on peut pas faire ça sans argent. Donc, il faut un moyen de financer cet effort. Mais si le but d'une entreprise est de gagner de l'argent, elle ne sert pas ses utilisateurs. Donc, il faut bien voir que la motivation première de la compagnie, et c'est très clair quand on travaille dans cette entreprise, c'est de connecter les gens entre eux, d'avoir un effet positif. Il y a énormément d'efforts qui est passé à Facebook pour détruire la démocratie, pour protéger la démocratie. Il y a un nombre de personnes employées par Facebook phénoménal, dont le seul but, en fait, est de protéger la démocratie, d'empêcher, par exemple, des conflits ethniques qui sont véhiculés sur les... Alors, il y a des ratés, hein, toujours, mais justement, c'est ce qui permet ce contrôle. Maintenant, Facebook ne veut pas s'ériger... Facebook est très conscient que c'est une plateforme très importante de communication, et Facebook ne veut pas s'ériger comme le dépositaire de la vérité. C'est-à-dire, on demande à Facebook supprimer cette publicité mensongère, supprimer qui est une publicité par exemple politique d'un candidat. Facebook ne se voit pas comme ayant la légitimité ou le droit de prendre ce genre de décision pour les gens. Donc ça fait Facebook très récemment. Il y a un discours de Mark Zuckerberg qui date de quelques jours à Georgetown University. Il a dit, on a demandé au gouvernement de nous donner des recommandations. Les gouvernements n'ont rien fait. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un conseil, on va mettre en place un conseil indépendant de Facebook. Donc c'est financé par Facebook, mais Facebook met de l'argent dans une banque sans pouvoir y toucher. Et on va demander à ce conseil de diriger des règles de contenu. Et les décisions que prendra ce conseil seront obligatoire pour Facebook de suivre. Donc c'est un système de gouvernement, si vous voulez, de Facebook qui est, mais en fait, qui est créé par un vide des vrais gouvernements qui ne répondent pas aux.
Après
il reste quelques minutes ouais, rapidement,
vous avez
Gilles.
Dit que après les élections de 2016, Facebook a réagi. Oui. La création de ce conseil indépendant est une de ses réactions. Une autre de ses réactions a été de vouloir favoriser, justement, pour connecter les gens, comme vous l'avez dit, les groupes, c'est-à-dire oui. des réseaux de solidarité locale.
De solidarité, oui.
Or, ce dont on s'est aperçu au moment du mouvement des Gilets jaunes chez nous, c'est que un des effets de ces groupes a été que ceux qui étaient inscrits sur les groupes Facebook n'avaient plus comme réalité que les groupes Facebook et que loin de, ils avaient connecté certaines personnes, mais ils avaient déconnecté aussi beaucoup et qu'il y avait un espace public qui était, des espaces publics qui étaient extrêmement séparés. Donc ça, c'est pas une mauvaise intention nécessairement de Facebook, mais ça peut être un effet pervers. Est-ce qu'il y a des réflexions là-dessus? Est-ce que ce que l'on a vécu en France a donné à réfléchir ailleurs?
Constamment.
Ce genre d'effet, donc il y a un groupe entier à Facebook qui s'appelle Core Data Science, qui est entièrement dédié en fait à mesurer l'impact sur la société, sur la vie des gens, de l'utilisation du service. Et quelquefois, il y a des réponses simples. Donc, supprimer la propagande terroriste, c'est fait de manière très efficace avec des systèmes d'IA. On doit se reposer sur des systèmes d'IA parce que le volume d'informations est tel qu'on peut pas faire manuellement. Bien qu'il y ait, en fait, entre 15 et 20 000 personnes employées par Facebook qui font de la modération de contenu manuel. Mais il faut que ces gens parlent toutes les langues du monde qui sont utilisées sur Facebook. C'est des milliers de langues, en fait.
Et puis, ils sont 20 000 pour donc 2 milliards 700 millions d'utilisateurs.
Voilà, qui postent des milliards et des milliards de posts. Donc, c'est pas possible. Par exemple, si vous voulez distribuer la propagande néo-nazie en Europe, vous n'écrivez pas un post néo-nazi parce qu'il va être supprimé tout de suite par les systèmes automatiques. Ce que vous faites, c'est vous faites une image et vous tapez le texte dans l'image. Donc il faut maintenant un système de reconnaissance d'image qui lise le texte pour détecter que c'est la propagande néo-nazie pour l'enlever. Et ce que font maintenant les gens qui veulent distribuer ce genre d'informations, ils rendent le texte difficile à lire pour les machines. Donc c'est un espèce de jeu de chat et la souris. Mais ce genre de réflexion à Facebook est comment défendre la démocratie, quel type d'information doit être véhiculée, quelle page doit-on garder ou supprimer, sont des questions qu'on se pose journalièrement.
Est-ce que le risque n'est pas, c'est d'ailleurs celui qui a été soulevé au moment de la discussion là sur la loi Avia sur les propos haineux sur Internet.
Du nom de Laetitia Avia, la députée voilà. LREM qui porte le projet.
Est-ce que le risque n'est pas justement de faire vous expliquer que Facebook ne se veut pas détenteur de la vérité, mais par principe de précaution, est-ce que les plateformes ne risquent pas de supprimer des contenus dès qu'il risque d'y avoir un débat social sur tel contenu? C'est-à-dire, en gros, quand il y a des associations particulièrement virulentes, on sait très bien qu'elles font monter des discussions sur la laïcité, sur la critique de telle ou telle religion. On risque pas de se retrouver face à une entreprise qui va garantir avant tout sa sécurité.
Alors le principe de précaution est en fait celui qui consiste à ne pas interférer, c'est-à-dire laisser les contenus passer. Et il y a généralement des processus de réflexion qui sont assez longs en fait pour décider de supprimer. Donc par exemple, il y a une décision de Facebook il y a quelques mois de supprimer des groupes qui étaient très suivis aux États-Unis contre les vaccins. Donc des groupes qui disaient les vaccins causent l'autisme, etc., qui est factuellement faux, qui était prouvé par des études scientifiques très nombreuses, et qui ont un effet très délétère sur la société, puisque ça contribue à des épidémies qui par ailleurs n'existeraient pas. Donc ça, c'est des décisions qui sont pas prises à la légère, surtout pour des groupes qui sont très suivis. C'est très difficile à faire quand les groupes ou les participants appartiennent à des gouvernements, par exemple, mais ça a dû être fait à quelques occasions dans lesquelles les gouvernements, par exemple, appelaient à des massacres. Bon, on est obligé de prendre des mesures simplement pour des raisons humanitaires. Donc ce sont des questions qui sont vraiment très compliquées. Hein, et Facebook se fait attaquer de tous les côtés. D'une part,
Facebook, comme les autres GAFA d'ailleurs.
Comme les autres GAFA, et, enfin surtout les réseaux sociaux ou Google. d'une part, des gens qui disent « vous ne faites pas assez de censure », d'autre part, des gens qui disent « vous en faites trop », et souvent, c'est les mêmes gens, mais pas pour le même genre de contenu.
Ce qui est assez fascinant, c'est le nombre de questions que pose cette révolution technologique en cours, et vous revenez sur plusieurs d'entre elles, et on n'a pas eu le temps d'en parler, mais notamment la dimension sociale, puisque vous dites que oui, l'intelligence artificielle aura des conséquences sur l'emploi. À n'en pas douter, vous affrontez des questions très nombreuses qui ont trait à nos inquiétudes, aux inquiétudes légitimes, aux fantasmes aussi. Parfois, vous revenez sur le grand film qui vous a longtemps inspiré depuis votre adolescence, 2001, ou l'Odyssée de l'espace, là qui pour le coup donne vraiment une version sombre de ce que peut faire une machine avec HAL, le robot tueur. Mais c'est passionnant en tout cas de vous entendre. Merci infiniment Yann Lequin d'avoir accepté de débattre avec nous aujourd'hui dans le grand face-à-face « Quand la machine apprend » est publié chez Odile Jacob. Natacha et Gilles, je vous donne rendez-vous samedi prochain. Merci à Mathilde Clatt qui a préparé cette émission, à la réalisation Marie Mérier, à la technique Maxime Ingrand. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous demain midi pour Questions Politiques.